La perspective est nuisible à l'homme.
Mon ami Serge a acheté un tableau.
Je sais pas pourquoi mon fragonard m'a toujours fait chier.
The artist hasn't found himself yet.
Il n'y a pas à comprendre, Josette, il y a à ressentir.
Il aime l'art.
It's quite a lovely Jackson Pollock, isn't it?
Grâce, symétrie.
Ceci n'est pas un musée.
Et sensibilité. Sensibilité.
Sirène, chronique d'art. L'exercice de la chronique a ses jouissances secrètes. L'une d'entre elles est atteinte lorsque l'on peut enfin se citer soi-même. Un peu comme ces universitaires qui, à longueur d'articles, multiplient les notes en bas de page renvoyant à leur propre publication. Aujourd'hui est un grand jour, puisque je suis sur le point de franchir ce seuil et que je le fais allègrement, en vous disant, souvenez-vous, chers auditeurs, souvenez-vous du numéro 9 de Sirène consacré à l'exposition Spies in the House of Art, organisé au Metropolitan Museum de New York. J'y avais rapidement évoqué un film bien étrange, réalisé par l'artiste britannique Isaac Julien, et consacré à un lieu tout aussi étrange, le Johnson Museum de Londres. Eh bien ce lieu, revenons-y. Poussons à nouveau la porte du 12 Lincoln's Fields. L'aventure commence en 1792, lorsque l'architecte Johnson, qui dessina notamment la très néoclassique Bank of England, achète la demeure et y installe certes sa famille, mais surtout sa collection. Surtout car Johnson est un vrai collectionneur, d'art antique et de peinture du XVIIIe et du début du XIXe principalement. Et il transforme peu à peu les espaces d'habitation en espaces d'exposition. L'association d'une âme collectionneuse et d'un esprit architecte se révèle sans pitié pour l'espace domestique qui se voit repensé, reconfiguré, assagi à la folie de la monstration. La collection étant trop à l'étroit dans la maison du 12 Lincoln's Fields, Johnson fait l'acquisition du numéro 13, puis du numéro 14. Et pourtant, cela ne suffit toujours pas. La collection prolifère à l'extérieur, jusqu'au dehors. Et lorsqu'on passe dans le musée, à travers les fenêtres, on peut voir un petit obélisque et quelques chapiteaux corinthiens qui se tiennent, étranges, bizarres, intrépides et fiers sur le fond typiquement londonien fait de murs et de briques noires et de gouttières qui les environnent. Il semble que ce soit le refoulé gothique de Johnson, l'architecte des bâtiments grecs, calmes et réguliers, qui s'exprime dans cette maison. Il creuse une crypte pour entreposer un immense sarcophage et des statues de marbre noir, fait installer un dôme de verre transparent et des verrières jaunes pour créer des effets de lumière théâtraux, ménage d'infimes passages dans lesquels on ne peut que glisser un regard, ouvre de spectaculaires ouvertures, installe des miroirs convexes qui réfléchissent l'espace en le déformant, couvre les murs de fragments antiques dans des mises en scène enchevêtrées qui empêchent d'observer isolément chaque objet, mais contraignent à tout voir ensemble, à voir l'effet d'ensemble, c'est-à-dire à voir la collection. Car c'est bien cela que Soane expose, sa collection, c'est-à-dire non pas une addition de chefs-d'œuvre individuels, mais un ensemble qui doit être regardé comme tel et qui fait sens et forme comme tel. Une totalité, pourrait-on dire, mais une totalité infinie, puisque le dessein de la collection est de ne jamais, jamais être complète. Le dessein de la collection est aussi d'être centré autour d'une figure qu'elle dessine en creux, celle du collectionneur. On se collectionne toujours soi-même. C'est Baudrillard qui le dit, mais c'est Johnson qui le prouve. Et dans l'amoncellement général, il est un objet qui s'extrait et se distingue, le buste de Johnson lui-même. Placé au milieu d'une balustrade à l'endroit où s'ouvre une crypte, il domine les alentours, et la blancheur du marbre dont il est fait lui permet de l'emporter sur le seul objet qui, depuis l'autre côté de la balustrade, pourrait lui faire concurrence, une copie noirâtre de l'Apollon du Belvédère. Johnson semble ainsi suspendu dans les airs, mais au-dessus de quoi plane-t-il ? Au-dessus du sarcophage exposé dans la crypte. Et Baudrillard de nous susurrer à l'oreille que toute collection a partie liée avec la mort, qu'elle est non seulement une tentative d'échapper à la mort, mais qu'elle en est aussi une manifestation. Car le seul terme possible de cette forme perpétuellement inachevée, c'est la mort du collectionneur. Les fragments et sculptures antiques représentent la majeure partie de la collection de Soane. Mais il y a aussi un ensemble conséquent de peintures, auquel le collectionneur réserve un espace spécifique, comme si ce grand amateur du mélange tenait toutefois à maintenir une distinction entre art de la surface et art du volume, jugeant sans doute que chaque catégorie réclamait un regard spécifique et partant un espace spécifique. Une des salles les plus frappantes du Soane Museum est précisément consacrée à la peinture. C'est un petit cabinet gris-vert, au volume parfaitement cubique, nommé la Picture Room, et dont les murs sont tapissés de tableaux. Vous entrez dans cette pièce, un gardien aux gants blancs s'avance, referme la porte derrière lui, s'approche du mur de gauche, fait jouer un loquet, et voilà que le mur s'ouvre en son milieu, découvrant une cloison secrète, elle aussi recouverte de toiles. On y trouve notamment la série A Rake's Progress, où le peintre William Hogarth retrace pas à pas la vie et la chute d'un enfant dissolu. Le mur de droite de la pièce s'ouvre également, et découvre une cloison qui ouvre à son tour et donne sur une niche où trône une maquette de la Bank of England, le grand œuvre de Soane. Mais la maquette n'est pas la seule représentante des créations de l'architecte. Sur les panneaux que l'on vient d'ouvrir, deux toiles se font face. Deux paysages de fiction, tous deux réalisés par Joseph Gandhi, l'assistant de Soham. Le premier rassemble les projets non réalisés de John Soham. Amassés dans un paysage de montagnes bucoliques et de sfumato bleuté, ces bâtiments, toutes colonnes de chapiteaux et de coupoles immaculées, dessinent l'Angleterre telle que Soham la rêvait, telle qu'il aurait voulu la rebâtir. La seconde toile frappe au contraire par ses tons sombres, terreux. Elle est l'absolu contrepoint de la première. On y voit, amassés dans un décor qui tient autant du temple que de la crypte ou du souterrain, tous les bâtiments conçus et bâtis par Soham. Dramatiquement illuminés par un projecteur à chandelle, ces œuvres s'entassent en mausolées, enterrées comme mortes précisément parce qu'elles ont été réalisées. Parce que contrairement aux projets rêvés mais non bâtis, elles sont une collection finie et complète. En bas à droite de la composition, minuscule face à un immense bureau couvert de plans, une silhouette. Il ne peut s'agir que de Soham. Il ne peut s'agir là que de l'architecte, que du collectionneur hantant son propre tombeau. John Soham meurt en 1837. Et selon sa volonté, sa demeure est transformée en musée public par un acte du Parlement. Seule contrainte, que l'accès au musée soit gratuit et que tout soit, autant que possible, conservé dans son état originel afin que perdure, à travers la collection et à travers sa mise en exposition, le regard du collectionneur.